Alors, nous lui avons demandé de venir nous parler du peuple des ateliers. Et nous avons la chance que des personnes aient fait une très belle exposition sur les artisans du Marais dans le cadre de l'église Saint-Éloi. Monsieur et Madame Olivier qui sont là ce soir, ils ont eu la gentillesse de nous prêter une partie des panneaux qu'ils ont réalisés parce qu'ils en ont fait beaucoup, beaucoup plus.
Avant de dire quoi que ce soit du contenu de ce livre, je voudrais dire pourquoi m'est venue l'idée de le faire et la manière dont il a été conçu. J'avais, juste avant ça, au moment du bicentenaire, comme beaucoup d'historiens de l'époque, travaillé sur cette période, et j'avais écrit un livre qui analysait et présentait le rôle de l'artisanat dans cette charnière du XVIIIe et XIXe siècle, pendant cette période révolutionnaire. Et puis, vous savez bien, vous qui fréquentez la bibliothèque, qu'on a beau travailler sur un sujet, on en déborde toujours. Et ma surprise a été grande de constater que, dès lors que les lois d'Arlade et Le Chapelier avaient été promulguées, 91, la loi Le Chapelier qui interdit l'association et toutes les associations, qui sera abolie seulement en 1910, cette fameuse loi sur les associations, et puis la loi d'Arlade qui, elle, instaure la patente, tout se passe comme si les artisans disparaissaient. C'est-à-dire que, en effet, les corporations sont abolies, c'est la suite logique de la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges, l'abolition des corps de l'Ancien Régime, et tout se passe comme si les artisans n'existaient plus. Alors à cela, il y a plusieurs raisons, et il m'a semblé que la principale était que on avait sans doute porté sur le monde du travail du 19e siècle un regard a posteriori, comme si les analyses pertinentes et justes qu'on pouvait poser sur le monde du travail au tout début du XXe siècle, qui faisait analyser le monde du travail avec une espèce de grande figure de proue qui était l'usine, avec les acteurs de l'usine qui étaient le monde ouvrier et les prolétaires, comme si cette figure pertinente et réelle, en gros postérieurement à la guerre de 14, venait s'appliquer sur cette période, tout le XIXe siècle, où on ne parle plus des artisans, alors que c'est quand même bien improbable qu'une simple loi suffise à les faire disparaître du champ de l'activité économique, et puis comme si on avait voulu voir dans ce monde du travail, de cette fin du XVIIIe, uniquement les prémices de ce qui sera au début du XXe siècle. Un peu comme si le monde du travail de ce XIXe siècle était couvert en fait par un anachronisme. Parler de prolétariat, bien que le mot existe, le nom même de prolétaire existe au XIXe siècle, mais pas tout à fait avec le sens qu'on peut lui accorder, en tout cas après la Révolution russe. Donc, je me suis interrogé sur ce qui me semblait être une lacune de l'histoire, ou en tout cas une imperfection du travail, y compris du travail des historiens. Bien peu de livres existaient, sauf des livres qui traitaient davantage de la question politique, de ce que ça avait pu être que ce monde du travail au XIXe siècle, avec les ressorts politiques et les revendications qui en découlent, mais bien peu s'intéressait à la réalité de ce qu'avait pu être le travail une fois abolies les corporations ouvrières du XVIIIe siècle et une fois instaurée la patente. Dernière chose, quand on regarde l'article artisanat dans l'Encyclopédia Universalis, qui n'est pourtant pas, me semble-t-il, un ouvrage qui peut être taxé de vouloir occulter le savoir, on s'aperçoit que ça fonctionne rigoureusement de la même manière. C'est-à-dire que on parle de l'artisanat du Moyen-Âge jusqu'à l'abolition des corporations d'Ancien Régime en 91, et ensuite on ne reparle de l'artisanat qu'à partir de 1923, qui est l'année où le mot est créé. Artisanat, ça n'existe pas au XIXe siècle. Les artisans, oui, mais le vocable artisanat n'existe pas. Il est créé en 23. Les chambres de métiers sont créées en 25. Entre ces deux dates, l'artisanat n'existe pas, il y a un trou. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'historiographie. Mais quand on discute aussi avec les artisans, on a l'impression qu'il y a aussi un peu quelque chose comme une perte de mémoire, comme une lacune, si ce n'est, et c'est pas du tout dérisoire, si ce n'est d'avoir conservé une espèce de valeur du travail, un amour du métier, qui me semble-t-il est assez bien restitué sur les panneaux qui sont derrière moi. Mais au niveau de l'évolution de ce qu'a pu être corporations ouvrières, de ce qu'elles sont devenues après leur abolition, pas un mot, pas même dans la mémoire des artisans. Et c'était assez mal porté, et ma proposition et toutes ces réflexions ont été débattues au ministère de l'artisanat, c'est donc bien qu'il a subsisté, puisqu'il y a même encore aujourd'hui un ministère qui s'occupe d'eux, c'est donc qu'ils n'ont pas disparu, que l'artisanat lui-même existe. Donc toutes ces questions ont été débattues, et en effet, il y a une espèce de perte de mémoire de la CUE qui fait disparaître l'artisanat ou les corporations ouvrières en 1791, et qui les fait réapparaître quelque part sous Pétain, ce qui est assez mal porté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates? Apparemment, personne ne le savait. Et puis, aucun ouvrage synthétique, en tout cas d'historien, n'existait sur la question. Donc moi, j'ai voulu en savoir un peu plus, et puis essayer de comprendre si on n'avait pas voulu voir dans ces corporations ouvrières anéanties par les lois de 1791, par les lois révolutionnaires, si on n'avait pas voulu voir quelque chose qui naîtrait beaucoup plus tard, mais qui n'existait pas encore réellement, ou qu'en tout cas c'était bien une simplification de langage que d'en parler ainsi, qui n'existait pas au XIXe siècle, à savoir le prolétariat. Alors, c'est là-dessus que j'ai avancé, c'est pour ça que ce livre existe, un peu pour combler une lacune, mais peut-être aussi pour détruire un mythe qui est que une période succède à une autre avec une fracture brutale, qu'elle soit un décret, une loi ou un événement quelconque. C'est pas tout à fait juste, et les historiens savent bien qui travaillent sur le temps long que, quel que soit l'événement, une période ne succède jamais à une autre en anéantissant totalement celle qui l'a précédée. Et l'idée a été de vouloir voir et comprendre qu'est-ce qui se passait au-delà de la Révolution dans ce monde du travail qui avait été si partie prenante et si sur le devant de la scène au cours de ces journées révolutionnaires. Qu'est-ce qu'il était advenu de ces gens-là et quelle était leur position à l'intérieur de la classe sociale et politique ou des classes sociales et politiques, et comment avait pu se constituer ce prolétariat, et comment est-ce que, entre les corporations ouvrières et le prolétariat majoritaire après 14, qu'est-ce qui avait bien pu se passer dans ce monde du travail. C'était ça l'objet du travail, c'était ça l'objet de la réflexion, et c'est autour de ces questionnements-là, autour de cette volonté de comprendre un peu quelque chose, comment fonctionnent les rythmes de l'industrialisation, et quelle place ont les artisans à l'intérieur de ces rythmes de l'industrialisation, que ce livre a existé, et c'est de ça, et exclusivement de ça qu'il parle. Donc je me suis assez peu attaché au geste de l'ouvrier, je me suis assez peu attaché aux techniques, au savoir-faire, si ce n'est pour les restituer dans ce qu'elles peuvent avoir de conscience du travail. C'est-à-dire que d'histoire technique, il n'y a pas, de savoir comment un vernis s'élabore ou comment un meuble se fabrique, quelles étaient les techniques et leur évolution au sein du Faubourg Saint-Antoine. Je n'ai absolument pas travaillé là-dessus, ce n'était pas mon propos. L'idée était davantage de comprendre comment est-ce qu'un groupe qui est bien vivant au Faubourg Saint-Antoine dans ces périodes révolutionnaires, comment est-ce qu'on peut occulter cela et ne plus parler que de prolétariat à la guerre de 14, qu'est-ce qui se passe pour eux et pour les autres, qu'ils soient ébénistes, lingères, cordonniers, serruriers, imprimeurs, comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut passer de cette période où on parle de corporation ouvrière, où les choses sont bien enfermées dans un métier, à une espèce de classe ouvrière au singulier, alors que le XIXe siècle parle de classe ouvrière au pluriel, les classes ouvrières. Bien avant donc que quelconque idéologie politique, marxiste, puisse intégrer le monde du travail. L'idéologie marxiste, elle arrivera en France, hein, elle insufflera sa réflexion et son idéologie à l'intérieur du monde du travail, mais pas avant la fin du XIXe siècle, pas avant le Congrès de Marseille en 1879, au moment où Jules Guesde injecte dans ce rassemblement de congrès ouvriers une autre idéologie qui est celle, là pour le coup, de la réflexion autour du prolétariat. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux dates? Alors, ça me paraissait difficile, toujours difficile, de comprendre comment tout cela avait pu évoluer sans faire une référence à la révolution industrielle, parce que la réflexion était d'abord une sensibilité à des mots ou à des absences de mots. De la même manière que ça me paraissait curieux qu'on puisse parler immédiatement après la révolution de prolétariat, ça me paraissait curieux qu'on puisse parler immédiatement après la révolution d'industrie. En tout cas avec le sens superlatif qu'on lui accorde aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle d'industrie, c'est forcément la grosse industrie. Or au XIXe siècle, au XVIIIe déjà, au XIXe siècle encore, industrie c'est tellement de choses. C'est pas seulement une grosse industrie. Quand on veut parler d'une grosse industrie, dans ce début du XIXe siècle, on parle davantage de manufacture plutôt que d'industrie. Et quand on parle d'industrie, on parle davantage de pratique. Une industrie, ça renvoie à industrieux, c'est plutôt un adjectif, un substantif du travail. Donc, un certain nombre de mots qui n'ont pas tout à fait le même sens au XVIIIe, au XIXe et au XXe siècle. Donc, faire en sorte d'essayer d'éviter de calquer sur un siècle achevé, sur un 19e siècle naissant, immédiatement après la Révolution, essayer d'éviter de calquer un vocabulaire, ou en tout cas de le reprendre, parce qu'il existe au 19e siècle, mais de le reprendre avec le sens qu'on peut lui accorder aujourd'hui. Ainsi, quand je parlerai de prolétaire, d'ouvrier, d'artisan, de prolétariat, il ne faut pas l'entendre avec un sens tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui, ou même d'industrie, de grosse industrie. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, je vais en parler, mais avec un sens qui est décalé, et d'essayer de retrouver le sens des mots, et d'insuffler dans cette réflexion, dans ce travail, dans cette présentation du peuple de l'atelier, redonner le sens des mots. Donc ça me paraissait difficile, et encore aujourd'hui ça me paraît difficile, d'occulter ce qu'on a appelé la révolution industrielle. Il n'est pas possible de parler de l'artisanat sans parler de la révolution industrielle. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais ça me paraît indispensable, ne serait-ce que pour resituer le rôle et la place de ce monde-là du travail dans l'évolution de la société française, que ce soit d'un point de vue social, que ce soit d'un point de vue économique, ou que ce soit d'un point de vue politique. On a une image de la révolution industrielle qui est toute britannique, et on oublie un peu qu'à cette époque-ci, le tunnel sous la Manche n'existe pas, et que l'Angleterre est une île, et que la France n'a pas forcément fonctionné ni au même rythme, ni avec les mêmes valeurs, ni avec les mêmes implications économiques que la Grande-Bretagne. Les explosions démographiques de la Grande-Bretagne ne sont pas celles de la France, et l'explosion technique et l'explosion technologique de la Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle n'est pas tout à fait la même que celle de la France. Pourtant, en France, la révolution industrielle va exister. Alors là encore, on risque de paraître un peu tatillon. Quand on lit des choses sur la révolution industrielle, on s'aperçoit que, quand on l'écrit avec une majuscule, on s'aperçoit qu'il s'agit bien d'une révolution économique. Quand on l'écrit avec une minuscule, il s'agit d'une révolution technique. Il y a une différence, c'est-à-dire que il y a un certain nombre d'améliorations techniques qui vont bouleverser le paysage économique sans pour autant insuffler une transformation de la sphère économique, c'est-à-dire de l'organisation économique. Quand on va importer ou inventer ou permettre que se fabrique avec un apport technologique nouveau quelconque technique de fabrication, je ne sais pas, je pense à la machine à coudre par exemple, qui est une avancée technologique qui fait partie d'une révolution industrielle, une révolution technique avec des petites minuscules, on ne change pas pour autant une organisation économique, on n'en change pas les structures, on n'en change pas les modes d'organisation, les capitaux sont globalement les mêmes, les travaux sont globalement les mêmes, si ce n'est qu'il y a un apport technologique qui permet en grande partie de soulager le travail, pour une autre partie, et c'est non négligeable, de l'accélérer, de le rentabiliser, mais pour autant, la grande distribution de l'organisation économique n'est pas changée. En revanche, dès lors qu'on arrive à faire fonctionner cette petite machine à coudre, et de la voir en grand et de la faire fonctionner avec l'énergie et de la faire fonctionner toute seule sans l'apport de l'homme, alors là on change une structure économique et là on change une organisation sociale et là on peut parler de révolution industrielle avec une majuscule parce que les problèmes ne sont pas les mêmes et il y a un enchaînement de l'un à l'autre et les artisans pendant tout le 19e siècle sont partie prenante de ce déroulement technologique et de ce déroulement technique. C'est assez simple à comprendre. À la fin du 18e siècle s'invente la navette volante. Je parle du tissage. Avec la navette volante, la dimension du tissu peut être beaucoup plus grande, parce qu'on n'est plus obligé d'avoir la navette au bout des bras. On peut l'envoyer d'un bout à l'autre, et en conséquence tisser une large toile. Donc on gagne du temps. Donc tout d'un coup, ça pose un problème, parce que les fileurs n'arrivent plus à fournir. La navette va vite, on l'envoie d'un coin à un autre. Cette invention, c'est dans les années 1730 en Angleterre. Mais du coup, les fileurs ne suivent plus, parce que ça va trop vite. Alors ça va entraîner une réflexion du côté des fileurs qui vont inventer des choses qu'on va appeler spinning jenny, qui vont inventer une machine à filer qui va aller beaucoup plus vite et qui va multiplier de manière tout à fait considérable les productions qu'on pouvait avoir avec le rouet. Tout cela était des productions artisanales. La spinning jenny, qui est une machine qui permet de filer et de fabriquer du fil, elle va multiplier par 120. Du coup, ça va à nouveau redynamiser le tissage et du coup, le fait d'avoir eu une augmentation technologique importante avec la navette volante est plus suffisante, c'est plus une invention suffisante. Donc on va inventer un métier qui va être capable de supporter des fortes tensions et on va inventer le métier mécanique et on va réussir à le faire fonctionner avec la vapeur, avec de l'énergie. On va réussir à consolider les cadres qui furent autrefois des cadres en bois en les fabriquant en métal et du coup on a là une espèce de schéma mais qui s'applique à quantité d'industries, je ne les détaillerai pas toutes. Mais en tout cas pour le tissage, là on a là un schéma assez simple où une découverte technique entraîne une innovation technologique, laquelle entraîne à son tour une innovation technologique, et cette transformation de la chaîne va entraîner une transformation totale de l'organisation globale, à la fois sociale, à la fois économique et politique, puisque les réactions vont se faire jour à cette transformation sociale et économique, à l'intérieur d'un secteur de l'industrie. Parce que tout ça va s'enchaîner au-delà même de la technologie. On va avoir un Berthollet, qui est un chimiste, qui va inventer des techniques de blanchiment des techniques. On va avoir une manufacture à Julien-Josas, Oberkamp, qui va inventer des grands rouleaux pour imprimer les étoffes, et on accélère le processus. Alors ce processus qui était entièrement tenu au XVIIIe siècle par les artisans, par les compagnons, enchâssé en plus dans les corporations ouvrières, ça veut dire édictant des lois très précises, desquelles il était impossible de sortir, définissant les métrages, les couleurs, les matières, le nombre de fils qu'il faut mettre, etc. Tout d'un coup, on échappe. D'abord parce que les corporations n'existent plus, donc ces lois-là n'existent plus. Donc chaque industriel, chaque artisan a bien le droit de teindre de la couleur qu'il veut, a bien le droit de mettre le nombre de fils qu'il veut, a bien le droit de travailler au rythme qu'il veut, sous réserve évidemment qu'il ait le marché pour vendre son produit. Donc tout ça entraîne des transformations qui à l'origine ne sont qu'une invention, et tout d'un coup va se mettre en branle toute une machine économique avec une succession de découvertes techniques, avec une succession de découvertes qui sont finalement pas grand-chose. L'invention d'une navette volante au début du XVIIIe siècle va pourtant entraîner toute une série de révolutions techniques qui, à terme, vont totalement modifier la configuration sociale et la configuration économique d'un secteur comme le tissage. Il en sera de même dans la métallurgie. Le jour où on va inventer un procédé qui s'appelle le poudelage, qui va permettre de supprimer les impuretés dans la fonte va devenir un produit presque banal. C'est ça qui permettra de fabriquer des cadres au métier à tisser. Et du coup, on va pouvoir exploiter autrement avec ce nouveau procédé et avoir accès à de nouveaux produits et ainsi fabriquer par exemple des rails qui vont donner naissance au chemin de fer, parce que le chemin de fer, on en aura besoin pour extraire l'énergie. Parce que tout ça fonctionne avec de l'énergie. La machine à vapeur qui va augmenter considérablement ce qu'on appelle aujourd'hui la productivité, mais c'est le cas, ça veut dire qu'un cheval vapeur fournit le travail de 20 hommes. Alors à partir du moment où on est capable de faire fonctionner une machine à vapeur, il faut pouvoir exploiter la richesse du sol pour pouvoir alimenter la machine à vapeur. Mais pour ça, il faut des hommes pour l'extraire. Et une fois qu'on a extrait ça, une fois qu'on a ce produit-là qui va alimenter les machines à vapeur, alors eh bien, il faut construire des rails pour acheminer ces produits-là. Pourquoi ? Pour diminuer les coûts. Parce que dans les années 1830, l'hectolitre de charbon vaut 5 francs 40. Dans ces 5 francs 40, il y a 4 francs qui correspondent au transport. Ce qui est considérable. Donc le seul moyen de diminuer les coûts, c'est de transformer le transport de cette énergie-là, de cette source d'énergie. Donc les premiers à fabriquer du transport, les premiers à fabriquer du chemin de fer, ça ne va pas être pour transporter des voyageurs ni des marchandises, ça va être les compagnies minières qui vont produire du chemin de fer pour pouvoir transporter leurs propres produits. Et les premières lignes de chemin de fer, elles sont dans la région de Lyon, dans la région de Saint-Étienne, dans la région d'Alès, dans la région d'Anzin, dans la région de Denain, dans tous les bassins miniers pour transporter l'énergie. Je pensais à quelque chose tout à l'heure par rapport à cette énergie. Il faut voir un peu la manière dont ça peut décupler et dont ça peut transformer l'apport du travail humain. Là où la Grande-Bretagne, qui à la fin du XIXe siècle, elle produit considérablement et a déjà effectué un tour sur elle-même, c'est-à-dire que la révolution industrielle, elle est totalement achevée au courant du XIXe siècle, ce qui n'est pas le cas en France, il aurait fallu, les économistes ont fait ce genre de calcul, il aurait fallu 40 millions d'hommes au travail pour produire ce que produisait l'Angleterre si elle n'avait pas eu les machines à vapeur. C'est dire un peu la manière dont peut se décupler l'organisation du travail dès lors que la technologie s'en mêle. Une fois que cette technologie existe, une fois que cette révolution industrielle démarre, et elle démarre en France à la fin du XVIIIe siècle, elle pénètre le monde du travail. Elle pénètre et elle y rencontre des résistances. Elle y rencontre des résistances parce que les corporations ouvrières, si elles avaient un certain nombre de contraintes, si elles édictaient un certain nombre de contraintes à l'intérieur des corporations dont elles avaient la charge, contraintes qui réglementaient les poids, qui réglementaient les rythmes, qui réglementaient les fabrications, la machine bouleverse tout ça. Les corporations ouvrières n'existent plus, et la machine devient maître de ça. Du coup, les savoir-faire ouvriers, ceux qui permettaient aux artisans d'être maîtres, pas seulement de leur métier, mais aussi de leurs propres conditions de travail, mais aussi du marché du travail, du marché de l'emploi, ces conditions-là n'existent plus. Parce que la machine, du coup, devient maître de l'emploi. Et plus le savoir-faire ouvrier, plus le savoir-faire technique, celui qui permettait à la main de travailler, à l'esprit de travailler avec la main, et de produire quelque chose que seule cette main alliée à cet esprit pouvait produire. La révolution technique et la révolution industrielle bouleversent ça, on n'a plus besoin de ça, et en conséquence, on n'a plus besoin de ce savoir-faire, on n'a plus besoin de cette technique, et du coup, évidemment, l'artisan se sent menacé, à juste titre. La répercussion va plus loin que ça, parce que une manufacture, elles existent au XVIIIe siècle, les manufactures. Elles sont très peu nombreuses, mais elles existent. Oberkampf, Lambrempoy, 1500 ouvriers. Mais elles sont très peu nombreuses. Quantitativement, elles représentent sur le monde du travail, sur la quantité de travailleurs, sur la quantité d'ouvriers, on les appelle comme ça au début du XIXe siècle, elles ne représentent même pas 1%, ce qui est dérisoire. Mais elles existent. Par contre, ce qui est important, dans leur existence et dans le fait que la révolution industrielle va permettre qu'elles se multiplient, c'est qu'elles ne transforment pas simplement la technique, c'est qu'elles ne transforment pas simplement les conditions de la production des objets, c'est qu'elles transforment aussi l'espace et qu'elles transforment l'organisation du travail, en déqualifiant les ouvriers, mais aussi en ayant vocation, pas seulement à produire, mais aussi à gérer le temps des hommes. Là, je cite un auteur aujourd'hui décédé qui s'appelle Michel Foucault. Michel Foucault, quand il parlait de ça, il disait, et j'ai retenu la formule parce qu'elle est belle et qu'elle est juste, qu'il s'agissait pour les industriels d'organiser des durées profitables. Le temps n'était plus simplement du temps qui passe, où la manufacture, comme l'atelier, se rythmait au rythme de la campagne. Les machines font fi des campagnes, font fi des saisons. On n'a plus besoin des saisons pour produire, et la machine tourne, qu'il y ait moisson ou qu'il n'y ait pas moisson. Et comme Michel Foucault dit qu'il s'agit d'organiser des durées profitables, il parle à la fois de l'organisation des machines et de leur déroulement logique à l'intérieur d'un espace, mais il parle aussi de l'organisation logique des hommes à l'intérieur de cet espace, de telle sorte que à chaque place il y ait quelqu'un et que chacun ait une place, celle-ci et pas une autre. Ce qui n'était pas le cas de l'artisan, lequel était propriétaire à part entière du processus de travail depuis le moment où il commençait à manier la matière première jusqu'au moment où il vendait le produit fabriqué. Avec l'implosion, l'explosion plutôt de la révolution industrielle à l'intérieur des métiers, alors l'artisan n'est plus propriétaire de ça. Parce que quelque chose se passe qui fait que machinisme et machinerie et mécanisation de l'industrie fait que les coûts en amont sont beaucoup plus importants. Et qu'il y a des gens qu'on appelait autrefois dans les 17e et 18e siècles les capitalistes commerciaux, capitalistes financiers, qui détiennent du capital et qui sont capables d'acheter de la matière première et qui sont capables, parce qu'ils possèdent aussi les marchés, de vendre les produits, ce que ne sont plus capables de faire les artisans. Donc, tout cela bouleverse le monde artisanal et le monde artisanal est contraint de s'y adapter. La révolution industrielle vient s'immiscer depuis l'Angleterre jusqu'à la France dans un bouleversement total qui va concerner la sphère du social et qui, à terme, va bouleverser la sphère de l'économie. Là où il y a un problème, c'est que cette image-là, qui nous vient d'Angleterre, et qui, elle, existe vraiment en Angleterre, l'Angleterre a connu une explosion démographique, qui a vu un afflux de population dans les villes beaucoup plus considérable qu'en France, avec des coûts de main-d'œuvre qui n'avaient rien à voir avec ceux de la France, a généré d'emblée un prolétariat, a généré d'emblée une concentration ouvrière, parce que c'est ça, l'usine, c'est le lieu où on va pouvoir concentrer des machines et des hommes pour produire en son sein, dans une organisation logique de l'espace, des produits manufacturés ou des biens de consommation ou des biens d'équipement dans une organisation logique. Et en ce sens, fragmenter le travail. Parce que c'est ça l'organisation d'un espace usinier, c'est fragmenter le travail. C'est faire en sorte qu'un seul homme ne soit plus du début à la fin de la chaîne, mais répartir sur cette chaîne une multitude d'ouvriers qui vont faire la même chose. Et c'est là où la confrontation existe entre la manière dont l'artisan pouvait percevoir son travail, la manière dont il pouvait en avoir conscience, la manière dont il pouvait valoriser ce que lui-même produisait et autour de quoi s'articulait sa propre morale, avec une morale de l'usine qui n'a pas de morale. La seule morale de l'usine étant de produire le plus rationnellement possible, au moindre coût, des objets qui vont être vendus le plus rapidement possible et d'assurer une rotation rapide entre la matière première et le produit qu'on va vendre. Au XIXe siècle, on sait mal dénommer tout ça. Et quand je dis on sait mal, quand on avance un peu dans cette recherche, on constate que cette vocation superlative qu'aujourd'hui a l'industrie, elle est aussi perdue dans le vocabulaire du XIXe. Aujourd'hui, quand on parle de prolétaire, on sait assez bien ce qu'on veut dire. On n'est pas toujours capable de définir avec précision de quoi on parle, mais globalement, on cerne quand même bien la réalité du sujet. Quand on parle d'ouvrier, on sait qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Quand on parle d'artisan, on sait qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Au XIXe siècle, à la suite des enquêtes du XVIIIe sur les vagabonds et les mendiants, les différents pouvoirs qui vont succéder vont se poser la question du monde du travail. Et vont se poser les questions que je pose aujourd'hui sans être capable d'y répondre. Ça veut dire que tous ces mots, eux-mêmes vont les mélanger. Ils ne sont pas capables, ils ne savent pas, parce qu'ils ne connaissent pas les populations auxquelles ils s'adressent, de faire la différence entre un prolétaire, entre un ouvrier, entre un maître artisan, entre un petit patron, ou entre un artisan qui travaille tout seul. Où est la frontière? Est-ce qu'un boulanger, il est quoi? Il est commerçant ou il est artisan? Il est commerçant au motif qu'il vend son pain, il est artisan au motif qu'il le fabrique, mais dès lors qu'il travaille tout seul, il est aussi patron. Alors de qui parle-t-on? C'est une des grandes questions du XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'est un siècle où on compte. C'est un siècle où les statisticiens vont faire leur entrée sur la scène de la science et vont essayer de tout comptabiliser. Alors c'est assez facile dès lors qu'il s'agit de comptabiliser des délits. Le XIXe siècle va créer le compte de la justice criminelle. C'est facile de comptabiliser les délits, de compter des meurtres, c'est facile de compter des suicides, c'est facile de compter du vol à l'arraché. Tout cela est assez simple. Mais c'est pas facile de compter des ouvriers parce qu'on ne sait pas s'ils sont ouvriers, ils sont patrons. En plus, dès lors que des enquêtes sont lancées, on constate que les gens à qui on s'adresse ne savent pas non plus traiter la question. Ça veut dire que qui prendre en compte et qui est artisan en campagne? Parce que comment s'organise le monde du travail? Aujourd'hui, on sait assez bien. Un paysan, il est paysan. Un ouvrier, il est ouvrier. Un employé de bureau est employé de bureau. Le XIXe siècle, la question ne se pose pas comme ça. Il y a une interpénétration permanente, une autosubsistance des campagnes qui fabrique à l'intérieur des campagnes des gens qui sont artisans. Le maréchal Ferrand, il est paysan. Le paysan, il est maréchal Ferrand. Il est cordonnier. Il y a une autosubsistance des campagnes qui fait que dans les campagnes, chaque village s'organise avec tout ce dont il a besoin, villages qui les rendront ainsi perméables aussi à la pénétration d'un certain nombre de produits parce qu'ils n'en ont pas besoin. L'activité industrielle, elle est plus considérée comme elle pouvait l'être au XVIIIe, comme pourvoyeuse de rente pour l'État ou comme pourvoyeuse de deniers pour l'État. Elle est encouragée pour elle-même, il faut produire. Toutes ces enquêtes, elles posent ce problème-là. Comment se prémunir de la montée d'un fléau? Parce que les gouvernants ont quand même une certaine conscience de quelque chose qui bouge, et d'artisans qui sans doute ne vont pas s'en laisser compter, et sans doute ne vont pas être sans réagir, vont pas se laisser déstructurer. Donc, il faut les connaître, il faut les dénommer, mais chaque fois, les résultats des enquêtes sont quasi systématiquement tous les mêmes, on arrive à une opacité du contour de ce que peut être le monde du travail. On n'arrive pas à le connaître, on n'arrive pas à le dénommer. Les préfets même, eux, ne sont pas capables de faire transmettre les instructions qui viennent pourtant du ministère de l'Intérieur, parce qu'ils ne savent pas non plus ce que ça signifie. Pour vous donner quelques exemples, on ne sait pas où foutre les imprimeurs. Quand un préfet reçoit une fiche signalétique statistique, quand il reçoit combien il y a d'imprimeurs dans votre commune, il ne sait pas s'il s'agit des imprimeurs sur étoffe ou des imprimeurs de papier. Et la question se pose pour quantité de métiers qu'on ne sait pas comptabiliser et que les préfets ne savent pas comment faire pour relayer l'information. Donc en général, on laisse tomber. Les préfets laissent tomber et le disent. Ce n'est pas des choses qu'on découvre après coup de préfets qui n'auraient pas fait son travail, qui n'auraient pas assuré la nécessaire remontée de l'information au pouvoir central. Non, ils ne savent pas faire. Et ils disent, on ne sait pas comment comptabiliser ces gens-là, alors on ne les comptabilise pas. Et est-ce qu'il faut comptabiliser comme des artisans, tous ces artisans de la ganterie grenobloise, par exemple, qui sont tous des paysans, mais qui, par ailleurs, le soir, après les travaux des champs, fabriquent des gants. Lesquels gants, ensuite, sont rapatriés à la ville pour être exportés et vendus. Ces gens-là ne savent pas, donc ils disent, on ne les comptabilisera pas. Ce qui fait que quand on prend les statistiques pour savoir combien il y a d'artisans, combien il y a d'ouvriers à Grenoble, on en trouve très peu. Alors qui sont très nombreux. Parce que Grenoble est une réelle production gantière importante, la plus grande de France probablement, mais quand on regarde les statistiques ouvrières, il n'y a pas d'artisans gantiers, parce qu'ils sont tous paysans. Voilà. Et ça pourquoi? Parce que la France est rurale. La France est rurale au XIXe siècle, et la France le restera jusqu'après la guerre de 14. Alors, quand on parle du prolétariat, quand on parle de l'artisanat, je voudrais juste vous donner quelques chiffres pour que vous ayez un peu une idée de ce que ça peut représenter. Au début du XIXe siècle, il y a 23,5 millions de population rurale en France, c'est-à-dire de gens qui habitent en campagne et qui en vivent, pour 5, même pas 6 millions de population urbaine. Ce qui ne signifie pas forcément qu'à l'intérieur de la population urbaine, ils sont tous artisans. Les proportions vont assez peu varier durant le siècle. Au milieu du siècle, on a 27 millions en campagne et on a un tout petit peu moins de 9 millions en ville. À la veille de 14, on a un peu plus de 22 millions en campagne et on a un petit peu plus de 17 millions en ville. Ça veut dire qu'on n'a pas encore une équivalence 50-50. Ça veut dire qu'à la veille de la guerre de 14, on a encore pratiquement 60% de la population qui est rurale. Ça a un sens. C'est pas simplement pour dire que la société française ne s'est pas urbanisée. Ça signifie aussi qu'il y a une prééminence de la campagne et que les rythmes des saisons continuent à rythmer également le rythme de l'industrie. Et on retrouve ça assez fréquemment dans les rapports des préfets qui répercutent les récriminations des industriels qui se plaignent. Au moment des moissons, il n'y a pas d'ouvriers dans les manufactures. Ils peuvent plus venir parce qu'ils sont requis pour les travaux des champs. Mais c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Sauf de discipliner ce monde-là, et c'est ça le grand projet du XIXe siècle, discipliner, ou en tout cas organiser une mobilité régulée pour qu'on sache où et qui et quand. Or, on ne le sait pas et on ne peut pas le maîtriser. Et les ouvriers des champs préféreront aller assurer la moisson qui, elle, n'attend pas, alors que la machine, elle, attendra. Donc cette interpénétration de la ville et de la campagne n'est pas innocente quand on parle de l'artisanat. D'une part, on a une France qui est largement rurale. D'autre part, on a une France qui s'urbanise peu à peu, en tout cas qui se citadinise, on pourrait dire. Mais le cœur de la production, ça veut dire que proportionnellement, quand on parle de l'artisanat, quand on parle du prolétariat, même si on ne sait pas encore de qui on parle, on sait quand même qu'on ne parle pas d'une majorité de population française active. On parle d'une minorité. La grosse majorité de la population active, elle est rurale. Au milieu du siècle, sur 1000 actifs, je parle de l'ensemble du territoire national, sur 1000 actifs, il y en a 570 qui vivent du travail agricole, et exclusivement du travail agricole. 111 qui vivent d'une profession libérale, ils ne sont que 218, c'est-à-dire un tout petit peu plus de 20%, à être comptabilisés dans ce qu'on appelle la petite industrie, ça veut dire moins de 10. Et ils sont à ce moment-là 57 sur ces 1000, donc ça correspond globalement à même pas 6%. À travailler dans la grande industrie. On est au milieu du siècle. Au milieu du siècle où, jusqu'à présent, en tout cas moi c'est ce qu'on m'a appris à l'école, la révolution industrielle, elle est achevée. Au milieu du 19e siècle, ça y est, la révolution industrielle française, elle est faite. Elle se fait à la charnière révolutionnaire entre 18e et 19e siècle. Or, elle a beau être faite, et par ailleurs c'est vrai qu'elle est faite, elle n'a pas réussi à imprimer la France comme elle a imprimé la Grande-Bretagne. Au milieu du siècle, même pas 6% de la population active travaille dans la grande industrie. L'agriculture, en termes de rentabilité, en termes de production, de produits intérieurs bruts, continue à représenter 90% du revenu national. La répartition au même moment entre agriculture et industrie, et quand je dis industrie, je comprends tout le monde, les artisans, les petits artisans, ceux qui travaillent tout seuls, ceux qui travaillent en chambre, mais aussi les ouvriers d'usine, qui sont, on l'a vu tout à l'heure, même pas 6%, à ce moment-là, l'industrie représente 28%. Le reste est représenté par l'agriculture. Et à l'intérieur de ces 28%, 80% sont des gens de métier. Ça veut dire des artisans qualifiés, les héritiers, des compagnons du XVIIIe siècle. Globalement, la conclusion, c'est quoi? Enfin, en tout cas, la première indication sérieuse et certaine, c'est qu'à ce moment-là, le prolétariat, au sens où on l'entend aujourd'hui, il est naissant. Il existe, on ne peut pas le négliger, 6% c'est pas négligeable, pour autant, il n'est pas encore là. Et à l'intérieur même de l'usine, autant on a pu installer un certain nombre d'outils, même s'ils sont grandioses, même si c'est des marteaux pilons, autant on a pu installer un certain nombre d'outils qui fabriquent et qui savent fabriquer, autant on n'est pas capable encore de se passer du savoir-faire des compagnons, du savoir-faire des artisans auxquels on fait appel à l'intérieur de l'usine pour achever ne serait-ce que la finition d'un certain nombre de produits. Voilà globalement l'impact que peut avoir la révolution industrielle, mais par contre-coup, l'impact qu'elle n'a pas en France. C'est-à-dire que l'artisanat se maintient. La forme la plus répandue, c'est évidemment l'atelier. Il participe activement à la croissance du pays et il y participera jusqu'à la guerre de 14. C'est en général une erreur historique systématique que d'imaginer que c'est vrai au 19e siècle, c'est vrai encore aujourd'hui. Il n'y a jamais une période qui s'achève et puis une autre qui commence, qui réfère jamais à la précédente. C'est vrai ô combien à cette charnière des 18e et 19e siècles, il ne faut pas imaginer que la Révolution française, qui par ailleurs, d'un point de vue politique, elle a eu des répercussions considérables, va avoir une brisure et une fracture d'un point de vue économique. La croissance, c'est un phénomène de régularité. Quand on fait un certain nombre de courbes, j'échappe un tout petit peu là, mais quand on brosse sur le long terme, sur un siècle et demi, le prix du blé par exemple, la Révolution n'apparaît pas. On a une espèce de progression du prix du blé, bon, avec une petite chute qui apparaît, parce qu'il y a une crise frumentaire au moment, aux périodes révolutionnaires, et quand on brosse les tendances, on n'aperçoit pas sur cette tendance-là ce qui peut se fabriquer. La spécialisation, elle se fait en fonction de l'antériorité et en fonction de la qualité de l'agriculture telle qu'elle existait. Je parle de la comparaison entre l'Angleterre et la France. Si l'Angleterre a fait sa révolution industrielle telle qu'on a pu vouloir la plaquer aujourd'hui et telle qu'on essaye encore de la plaquer, et je sais qu'on le fait, puisque ma fille qui étudie ce genre de choses en ce moment au collège, on lui explique que le prolétariat existe depuis les années 1830, ce qui n'est pas vrai, en tout cas pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui. En Grande-Bretagne, il existe parce que le prix des produits est plus bas, parce que l'accroissement de la mécanisation était plus fort. C'est-à-dire qu'en France, les salaires étaient moins élevés qu'en Grande-Bretagne. Donc on pouvait jouer sur un apport de main-d'œuvre, parce que les coûts du salaire étaient moins élevés, et le travail pouvait fournir ça. Un industriel n'était pas obligé, je parle d'un patron d'industrie, n'était pas forcément obligé d'injecter de la machine dans son entreprise pour augmenter sa productivité. Il pouvait se payer du salaire, il pouvait embaucher du monde, les salaires étaient plus faibles. Ce qui en partie a permis de retarder, ou en tout cas de donner à la France une configuration industrielle différente de l'Angleterre, en tout cas différente de celle qu'on a bien voulu, sans doute par simplification, faire croire qu'elle existait d'emblée en France. C'est pas un retard. On ne peut pas imaginer non plus que je suis en train de dire la France est en retard sur l'Angleterre. Non, la France, elle est autrement que l'Angleterre. La machine économique française, durant tout le 19e siècle, elle ne marche pas en retard par rapport à l'Angleterre, elle marche autrement. L'Angleterre s'appuie sur une force économique qui va devenir rapidement un modèle de prolétarisation, et c'est ce modèle de prolétarisation qu'on importe en France. En France, ce n'est pas vrai. Ça sera beaucoup plus lent. La France, l'économie française va être à peu près régulière. On aura une croissance tout le siècle, à peu près sans discontinuité, qui sera autour de 3-4%. Et ce sera très régulier. Mais ce modèle-là marche sur deux jambes. D'un côté, on a la grosse entreprise, qui fait un travail globalement similaire à cette révolution qui a existé en Grande-Bretagne. Et de l'autre côté, on a l'artisanat. C'est ça l'autre jambe de l'économie française qui fait qu'elle tient debout et qui fait que cette croissance qui ne variera pas dans du siècle, entre 3 et 4%, ne variera pas. L'autre jambe, c'est l'artisanat. Les changements, par contre, s'ils ne sont pas de forme, ils vont être de fond. Parce que c'est par une lame de fond que les artisans, eux, vont être perturbés dans leur organisation. Il n'y a pas de diminution, ou très peu, elle interviendra très tard dans le siècle, il n'y a pas de diminution quantitative des artisans. Il n'y a pas non plus de diminution qualitative des artisans. En revanche, ce qui change, c'est qu'ils vont peu à peu entrer dans l'orbite du capitalisme industriel. C'est-à-dire que leur indépendance, qui était un de leurs fers de lance, ils étaient capables, les artisans, dans les corporations ouvrières, et encore au tout début du XIXe siècle, d'être maîtres de leur métier. Il y avait des maîtres du métier, mais ils étaient capables d'être maîtres de leur métier, ça veut dire qu'ils étaient capables d'imposer des conditions de travail, que le travail était vécu pas tellement comme une marchandise, mais plutôt comme une valeur d'échange. Il avait une valeur intrinsèque morale. Ça voulait dire qu'il y a des choses qu'on n'avait pas le droit de faire, qu'on s'interdisait de faire, quand on était ouvrier. Et la qualité du travail, le savoir-faire, permettait à ces ouvriers-là de tenir le marché de l'emploi et de tenir le patronat, les maîtres ouvriers, mais qui étaient leurs patrons, de leur imposer à ces patrons-là de fonctionner en valeur d'échange du travail. Quelques exemples qui aujourd'hui vont vous paraître rigolos. Au tout début du 19e siècle, les charpentiers décident de mettre Lyon, qui est quand même pas une petite ville, en interdit. En interdit, ça veut dire qu'on interdit à tous les charpentiers d'aller travailler là, parce que les patrons charpentiers ont décidé de supprimer au repas le quatrième verre de vin. C'est intolérable. C'est un manquement aux règles élémentaires de l'échange. On vous fournit du travail, et on travaille bien. Vous n'avez pas le droit de nous enlever le quatrième verre de vin. Les patrons veulent pas céder. J'explique que un verre de vin plus un verre de vin plus un verre de vin, ça leur coûte trop d'argent. Ils suppriment un quatrième verre de vin. Les ouvriers disent, nous, avec trois verres, on travaille pas. Les patrons disent, eh ben, il faudra travailler quand même. Les charpentiers décident de mettre Lyon en interdit. Ça veut dire que aucun charpentier, jamais plus, n'ira travailler à Lyon. Et les charpentiers n'y vont plus, parce que les corporations ouvrières, les corporations de charpentiers, le mot passe. Vous avez tous entendu parler du Tour de France. Le Tour de France, c'est un excellent moyen d'information. C'est pas seulement en roulant de boîte en boîte, comme on dit au 19e siècle. Ça sert pas seulement à apprendre le métier, ça sert aussi à faire passer l'information sur le prix des façons d'un atelier à l'autre, sur l'évolution des techniques d'une ville à l'autre, mais aussi sur le comportement de tel ou tel patron dans telle ou telle ville. Et les charpentiers vont mettre Lyon en interdit. Et les patrons céderont et remettront le quatrième vers le vin. Parce qu'à ce moment-là, la technique, l'industrialisation, la mécanisation ne peut pas remplacer le savoir-faire des charpentiers. Et les charpentiers le savent. Et les charpentiers ainsi tiennent le marché du travail au même titre que les patrons qui leur fournissent du travail. Donc il s'agit réellement d'un échange. Il ne s'agit pas ni d'un abus de la part des ouvriers qui pourraient aussi se retrouver sans travail parce que les patrons ne leur fourniraient plus ce travail, mais il s'agit d'endiguer aussi les abus qui pourraient être des abus patronaux. Et ça, les compagnons le font. Ils le savent que ce savoir-faire et cette technique, c'est leur force. Et ils ne l'abandonneront jamais dans le siècle. C'est pour ça que les compagnons tiennent, et ils seront les seuls à conserver ça, à l'apprentissage. Parce que une fois qu'on a perdu l'apprentissage, une fois qu'on a perdu les savoir-faire, une fois qu'on a perdu les tours de main, alors on a perdu le marché du travail, parce qu'on n'est plus capable d'imposer ce coup de patte, cette technique, mais qui n'appartient qu'à la main, sans laquelle rien ne peut se faire. Si on n'est plus capable d'imposer ça, on perd tout. Et que ce soit les compagnons au début du siècle, que ce soit les sociétés de secours mutuels par la suite, ou les associations ouvrières à la fin du siècle, toutes, elles reprendront en compte l'apprentissage. Que l'État ou non s'en charge, les ouvriers, eux, auront toujours à cœur de transmettre les savoir-faire, les méthodes de travail, les techniques de travail, indépendamment de l'augmentation du nombre de machines et de l'entrée des machines à l'intérieur du métier. Ça se fera toujours comme ça. Pendant toute la première moitié du 19e siècle, la place de l'artisanat, elle a une double empreinte. J'ai parlé de la révolution industrielle, elle existe. L'autre façon dont l'artisanat continue à exister, c'est l'héritage. C'est ces fameuses corporations ouvrières. Concrètement, ça se distribue en trois modes, en trois types. Il y a la manufacture, où peu ou prou, ils entrent. D'abord parce qu'on fait appel à eux, et ensuite parce qu'on les intègre avant l'apprentissage, parce que pour faire tourner une machine, on n'a pas besoin de cet apprentissage des tours de main. Donc, peu à peu, là se forme le prolétaire. C'est la première forme de l'industrialisation française, c'est la manufacture. Ça veut dire concentration de main-d'œuvre dans un même lieu. Ça veut dire aussi discipline. Et ça, c'est une des formes primordiales. Et c'est là que les artisans savent qu'ils ne peuvent plus intervenir à l'intérieur du processus. Néanmoins, la manufacture, si elle est minoritaire, est une forme importante de l'organisation économique du pays. La deuxième forme, c'est l'atelier familial. Celui que tout le monde connaît, probablement celui dans lequel évoluent tous ces métiers qui sont là derrière moi. L'atelier familial, il est en général dirigé par un maître artisan. Il est aidé par ses apprentis ou par des compagnons, qu'ils fassent ou non le Tour de France, peu importe. En général, ce maître-là contient dans sa main, ou en tout cas dans ses mains ou dans son atelier, l'ensemble du processus de travail. Ce type est capable d'acheter la matière première, de fabriquer le produit et de le vendre. Il est maître de ça. Pratiquement tous les métiers fonctionnent ainsi et ils sont installés en ville, ces gens-là. Le troisième type de l'industrie, Et il est très important parce qu'il est à la fois un héritage de l'Ancien Régime et il sera à la fois une manière pour le capitalisme industriel de récupérer l'artisanat. C'est ce qu'on a appelé, d'un terme un peu savant, mais il faut pourtant que vous reteniez, c'est ce qu'on appelait au XVIIIe siècle la proto-industrialisation. C'est l'industrie hors les murs. C'est l'industrie qui échappe, c'était ça au XVIIIe siècle, ça va continuer au XIXe siècle, c'est ce qui échappe aux contraintes et aux lois des corporations. Les corporations ouvrières, elles sont installées en ville, elles appliquent leurs lois, elles ont leurs juges à l'intérieur de la ville. Quand on veut échapper à ça, on construit ailleurs. C'est le cas du Faubourg Saint-Antoine qui échappait à un certain nombre de règles édictées par les corporations des ébénistes qui imposaient le nombre de clous sur les chaises. Au Faubourg Saint-Antoine, ils n'étaient pas obligés de respecter ça. Quand les corporations ouvrières étaient puissantes, on ne pouvait pas faire autrement que de passer sous le joug des corporations ouvrières. Le jour où elles se sont fissurées, la clientèle passait commande ailleurs que dans les corporations. Il n'y avait plus de pouvoir de la part des corporations pour pouvoir continuer à faire le travail comme elles auraient souhaité qu'elle se fasse. Une des techniques qui avait été trouvée par les industriels, par le capitalisme commercial, celui qui avait de l'argent et qui pouvait acheter de la matière première mais qui ne savait pas faire fabriquer, et qui ne pouvait pas passer par les corporations parce qu'elles refusaient, c'était de faire travailler la campagne. La campagne a toujours eu besoin d'un complément pour pouvoir subvenir en cas de mauvaise récolte. Il y avait toujours un supplément. Les campagnes sont tisses. Les campagnes fabriquent des gants à Grenoble, j'en parlais tout à l'heure. C'est ça, l'industrialisation hors les murs. C'est la proto-industrialisation, on parle de ça quand on décrit une grande histoire économique sur le long terme au XVIIIe siècle. Elle existe au XIXe siècle, et non seulement elle existe au XIXe siècle, mais elle va être redynamisée par les industriels. Parce qu'ils vont y trouver un schéma que vous allez saisir assez rapidement, parce qu'il est toujours actuel, sauf que les distances ne sont pas les mêmes. Faire fabriquer dans une usine, c'est payer un salarié, c'est payer un certain nombre de taxes. Vous savez tous qu'à Paris, il y avait l'octroi, c'était comme ça dans les villes. Il fallait payer pour faire rentrer la matière première, et puis ensuite, il fallait trouver le marché. Quand on faisait travailler quelqu'un en dehors de la ville, on le faisait bien travailler comme on voulait. Et on avait bien la totalité du pouvoir sur lui. On lui fournissait la matière première, et on lui disait, c'est ça qu'il faut faire. Point de corporation ouvrière, point de corps de métier qui soit capable de dire non. Les fils, on ne les tisse pas comme ça. Le maître d'œuvre, le façonnier, le donneur d'ordre, c'est lui qui possède le marché. Bon, on fabrique aujourd'hui les chemises à Taïwan ou je ne sais pas où, au Maroc, etc. C'est de la proto-industrialisation refabriquée par le capitalisme industriel pour diminuer des coûts et augmenter des profits. Ça existe et c'est redynamisé alors qu'une espèce de tendance, en tout cas ça se lisait dans les chiffres, ne serait-ce que dans les chiffres de la production, tendait à voir disparaître cette proto-industrialisation, et c'est pour ça qu'elle se nommait ainsi. Elle était avant l'industrialisation, c'était une espèce de lien qui se tissait d'un hameau à un autre avec des fils invisibles, mais qui faisait que telle région tissait, telle région fabriquait des gants, telle région fabriquait des couteaux, je ne sais quoi, et on savait où ça se prenait, et le donneur d'ordre pouvait là faire fabriquer. L'industrialisation tendait à faire disparaître ça. Et puis on s'aperçoit que le capitalisme industriel va au contraire redynamiser ça, parce que du coup, il n'y a pas de travail à donner, on n'en donne pas, on n'a de compte à rendre à personne, c'est comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, cette proto-industrialisation qu'on ne nomme plus comme ça, elle existe bel et bien. Ça, le monde artisanal va vivre de ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il va le subir, mais en même temps, c'est cette redynamisation de la proto-industrialisation, qui n'existe pas en Grande-Bretagne, qui va permettre au monde artisanal de passer le siècle, en partie. Et c'est un des éléments, le plus célèbre de ces exemples-là, de cette industrialisation hors les murs, il y en a deux très célèbres. Il y en a un qu'on connaît bien, ça s'appelle la fabrique lyonnaise. C'est les canuts. C'est Lyon. Lyon qui, à la fois, a à l'intérieur de ses murs un certain nombre de grosses entreprises, mais qui fait travailler la soie en campagne, dans des petites unités de production. C'est moi qui les appelle des unités de production. C'est des paysans qui ont chez eux un métier et qui travaillent pour un donneur d'ordre. Il y a la fabrique lyonnaise, elle a 400 entreprises hors les murs. Là, on est au milieu du 19e siècle, il y a 400 entreprises hors les murs. À la fin de la monarchie de Juillet, la fabrique lyonnaise emploie 20 000 personnes hors les murs. C'est la première source d'exportation française, la soie lyonnaise. Et la soie lyonnaise, elle est fabriquée hors les murs. Alors, c'est le plus bel exemple, c'est celui qu'on connaît bien, les Canuts lyonnais, tout le monde connaît. Paris fonctionne comme ça, à l'identique. Paris fonctionne sous le modèle de la fabrique. Sauf qu'à Paris, la fabrique n'est pas forcément hors les murs. La fabrique, elle est parfois dans les murs. Il y a à l'intérieur de Paris quantité de métiers qui sont les héritiers de ce qu'on appelait au XVIIIe les chambrelans, ceux qui travaillent en chambre et qui fabriquent de tout. Des jouets, des chaînes, des articles de Paris, de la plume, qui tissent aussi. Il y a de beaux exemples dans l'assommoir de Zola, d'un couple de chénistes chez lequel se rend Gervais. C'est la fabrique. C'est-à-dire que ces gens-là ne possèdent rien que le savoir-faire. Il y a un donneur d'ordre qui apporte la matière première. Ces gens-là fabriquent. Le donneur d'ordre vient récupérer le produit, bien souvent le fait achever ailleurs, et ensuite maîtrise le marché. C'est le cas en Alsace, où 85% du tissage alsacien est fabriqué hors les murs. C'est le cas dans le Nord, encore sous le Second Empire. Donc on est bien tard dans le siècle, à un moment où on pourrait imaginer que bah, ça y est, la révolution industrielle, elle a eu le temps un peu de faire. On est à la fin du Second Empire. À la fin du Second Empire, dans le Nord, il y a encore 60 000 métiers hors les murs qui sont en campagne chez des paysans. Roubaix, c'est la même chose. Enfin bon, on peut multiplier les exemples. C'est un type d'industrialisation qui fait fonctionner. Donc la manufacture, l'atelier familial et puis cette industrie hors les murs. Ces trois modes d'industrialisation font que, à la fois, l'artisanat va perdurer, ça va augmenter le nombre, j'allais dire, d'indépendants. Déjà, c'est une erreur, puisqu'ils ne sont pas indépendants. En tout cas, le nombre d'ouvriers seuls. Et en même temps, c'est ce mode-là d'industrialisation qui va faire que l'artisanat change, non pas quantitativement, non pas qualitativement, mais bien en profondeur, et que ce qu'il perd, c'est pas le savoir-faire, c'est l'indépendance. Peu à peu, et à la fin du siècle, bien rares seront les artisans qui seront indépendants. C'est-à-dire ceux qui seront encore capables d'avoir une disponibilité financière, et quel que soit le métier, d'avoir une disponibilité financière susceptible de leur permettre d'acheter de la matière première, et en même temps de maîtriser le marché. Bien rares seront les artisans qui, à la fin du siècle, seront capables de faire ça, enchassés qu'ils seront tous, et y compris dans la fabrique parisienne, et y compris pourtant à la fabrique parisienne qui est au sommet de la pyramide de la consommation, où le client est là tout de suite, et où la matière première est facile. Paris n'a jamais été une ville de grosse industrie, c'est de la petite entreprise, c'est de la petite industrie, y compris à l'intérieur de cette ville, et bien peu seront les artisans qui continueront à être indépendants. Pourtant, c'est bien quand même la ville qui change de nature au XIXe siècle. Et c'est la ville qui va aussi faire en sorte que l'artisanat, lui aussi, va changer de nature. Les villes vont se gonfler au XIXe siècle. Les villes ne sont pas très importantes au XIXe siècle. Elles sont incomparables à la Grande-Bretagne, par exemple. Au tout début du siècle, Paris a 550 000 habitants, ce qui n'est pas beaucoup. À un moment où on connaît une espèce de capitale, où on ne se pose pas de problème, Paris, c'est une grosse ville. Et on a tendance à penser que Paris, c'est un peu comme l'industrie, c'est forcément très gros. C'est la première ville de France, mais elle n'est pas très importante. Elle passera le million d'habitants au milieu du siècle seulement. Au début du siècle, il y a seulement 8 villes en France qui ont plus de 50 000 habitants, ce qui n'est pas beaucoup. Donc il y a un phénomène urbain qui est faible, je vous ai tout à l'heure un peu esquissé dans les chiffres, et qui va peu à peu, au milieu du siècle, il y aura simplement une quinzaine de villes qui dépasseront 50 000 habitants. Pourtant, ce qui change de nature, c'est que la ville cesse d'être rentière du sol, comme elle l'était au XVIIIe siècle. La ville captait les capitaux de la campagne, elle exploitait, rentabilisait le sol alentour. La ville au XIXe, elle devient une ville de service, et aussi une espèce d'articulation, de nœud, qui n'est pas seulement un nœud ferroviaire, qui n'est pas seulement un lieu de circulation des marchandises, mais aussi de circulation des idées et de circulation des hommes. Un exemple, c'est en ville qu'élisent domicile les donneurs d'ordre, ceux qui vont faire travailler la campagne, et c'est en ville que s'organise la division du travail, à la fois dans la manufacture, mais à la fois dans cette manufacture hors les murs, cette manufacture dispersée, qui n'existe pas en tant qu'architecture ou que bâtiment, mais qui pour autant participe bien à l'élaboration d'un seul et même produit, même s'il est fragmenté. La part de l'artisanat, elle continue à être tout à fait prépondérante dans tous les stades de l'industrie. Les entreprises de moins de 10 salariés, qui correspondent bien à ce qu'on peut nommer encore de l'artisanat, ou en tout cas de la petite entreprise, ils continuent à fournir 40% de la valeur globale de la production industrielle à la fin du Second Empire. ce qui est considérable. Ça veut dire qu'à la fin du Second Empire, on continue à avoir, alors que le siècle a été scandé par les révolutions, que le siècle a vu s'implanter de plus en plus de la production industrielle de grande échelle, jusqu'à la fin du Second Empire, en France, les industries de consommation, ça veut dire textile, habillement, bâtiment, alimentation, continuent à être prépondérantes. C'est elles qui l'emportent sur les industries de production, donc la production de machines. C'est une des raisons qui fait que la différence qui se fait entre l'Angleterre et la France, c'est qu'en Angleterre, on a plutôt quelque chose de l'ordre de la grosse machine. C'est là-bas qu'on produit les machines. En France, on a la qualité. En Grande-Bretagne, on a un prolétariat qui se développe beaucoup plus vite. En France, on conserve un artisanat fort et un artisanat qui conserve les valeurs morales du métier. Et ces valeurs morales du métier, elles vont avoir une traduction politique. Ça veut dire que si les artisans ont été présents, et largement présents, à la prise de la Bastille, il suffit pour cela de lire avec attention les registres des morts, les registres des arrêtés, les registres des blessés, pour constater que, avec une écrasante majorité, tous ceux-là sont artisans, on va avoir un phénomène qui va se diffuser à chacune des révolutions. Le 19e siècle en est scandé. Entre 1830, 1848 et la Commune en 70, c'est un peu comme si la Révolution française n'en finissait pas de finir, quoi. Comme si cette fracture qu'on imagine et qu'on lit dans les manuels scolaires entre l'Ancien Régime et le Nouveau Régime, c'est bien après qu'on a pu nommer l'Ancien Régime. Il n'était pas ancien du temps où on vivait. On vivait la monarchie. Et on a nommé ce régime-là tout de suite après sa chute, Ancien Régime. Bien comme si quelque chose s'achevait. En fait, tout se passe comme si la République se battait tout le siècle pour asseoir son pouvoir et pour asseoir son statut juridique, puisque revisité à toute vitesse ce 19e siècle, on a la monarchie qui tombe. On est bientôt le 21 janvier, je vous rappelle que le 21 janvier, au 19e siècle, les républicains se réunissaient pour manger la tête de veau, pour célébrer la décapitation de Louis XVI. On a une monarchie qui descend, on a une première république qui voit le jour, ensuite on a l'Empire, après on a à nouveau la République, après on a une monarchie constitutionnelle, après on a encore de la République, après on a encore l'Empire, et puis il faudra attendre quand pour que la Révolution se sente un peu sûre d'elle-même. Elle se sentira jamais sûre d'elle-même avant les années 1880. Alors comment ça marche d'un point de vue politique? Les corporations sont interdites. La loi Le Chapelier, la loi d'Arlat supprime définitivement, en imposant la patente et donc la déclaration, tout processus qui permettrait à ces classes ouvrières, je parle au pluriel, de se coaliser, de s'associer. Ça leur est interdit. Pourtant ça va exister évidemment. Ça va exister sous une forme héritée du XVIIIe siècle et même de bien plus loin. En gros, c'est le compagnonnage. Le compagnonnage, c'est à la fois une société secrète, c'est à la fois une société de secours mutuel, c'est à la fois une association ouvrière, c'est tout ça à la fois. C'est une organisation qui est largement diffusée sur le territoire. C'est une corporation qui a des rites, qui a des règles très précises, qui impose un certain nombre de contraintes à ses membres. On est d'abord apprenti, après on devient aspirant, après on devient compagnon, et après on devient maître compagnon. Tout ça en ayant prouvé à chaque fois qu'on était capable de réaliser, et on devient enfin maître quand on est capable de produire un chef-d'œuvre, c'est comme ça que les compagnons l'appellent, qui existe dans tous les domaines. Les compagnons charpentiers doivent réaliser une charpente absolument irréalisable, ils la réalisent à chaque fois. C'est la même chose pour les compagnons métiers. Et cette corporation, elle fonctionne avec une espèce de régulation du marché, de l'emploi, avec une haute conscience de ce que c'est que le savoir-faire. Et cette corporation, elle va en même temps véhiculer par la discipline qu'elle impose à ses membres, parce qu'on est obligé de faire le Tour de France, pour des raisons qui sont essentiellement techniques, parce que les tours de main à Bordeaux ne sont pas les mêmes qu'à Lille, et qu'il est nécessaire d'avoir roulé de boîte en boîte pour pouvoir maîtriser ces tours de main. Donc on est accueilli dans chacune des villes par une femme qui s'appelle la mère, qui accueille dans les Cayennes. On est accueilli par un compagnon qui s'appelle le rouleur, et qui est celui qui négocie le travail. C'est-à-dire c'est lui qui met en relation le patron qui va embaucher avec le compagnon nouvellement arrivé qui, lui, va travailler. Et le rouleur n'est pas seulement un intermédiaire, il est aussi celui qui va contrôler que la relation professionnelle entre le maître ouvrier et l'ouvrier se déroule convenablement. Ça veut dire que le maître a respecté ses engagements, mais que l'ouvrier, lui aussi, a respecté ses engagements. Égare à l'ouvrier qui n'aurait pas respecté ses engagements, ou qui aurait laissé des dettes en partant, il serait mis en interdit sur l'ensemble du Tour de France et rapidement retrouvé, et bien souvent bastonné par l'ensemble des compagnons. C'est une discipline très férue où un des principaux devoirs est de transmettre le savoir-faire. Ça fait partie des règles édictées par le compagnonnage. L'excellence et la transmission du savoir. La transmission du savoir est un devoir. Quand on est compagnon, on se doit de continuer à apprendre. Donc c'est la première forme d'organisation. Elle fonctionne aussi en forme d'aide, en forme de secours, en cas de maladie ou en cas d'accident. Et peu à peu, du fait de la répression de l'Empire, elle va peu à peu accueillir en son sein quelque chose qui pourrait être, peut-être pas une perversion du compagnonnage, mais en tout cas une déclinaison du compagnonnage. Elle va être une forme d'entraide et de solidarité qui va permettre à quantité d'ouvriers qui n'ont plus le droit, parce que la loi l'interdit, de se rassembler au sein des corporations ouvrières ou au sein d'associations de métiers, elle va leur permettre à eux, enfin, de continuer à s'associer et de se transmettre un certain nombre d'informations sur l'emploi, sur le marché, sur les prix, mais aussi de se transmettre du savoir-faire, mais aussi de fabriquer des caisses d'entraide. Un petit peu à côté des compagnonnages et un peu moins, je sais pas comment dire, mystique, il va y avoir des sociétés de secours mutuels. Les sociétés de secours mutuels, elles vont finir par être autorisées parce que, somme toute, on préférait voir l'ouvrier s'occuper de sa prévoyance que de le voir s'intéresser à une quelconque revendication. Donc, peu ou prou, le pouvoir central va finir par, dans un premier temps, tolérer, et puis dans un deuxième temps, supporter, et puis dans un troisième temps, autoriser les sociétés de secours mutuels qui ont pour vocation très clairement annoncée d'être une organisation de métier qui a pour vocation à subvenir en cas de maladie, à être là pour le décès, donc à payer les frais du décès, à aider la veuve, à être aussi là en cas de chômage, qui n'était pas forcément un chômage souhaité, mais qui peu à peu va jouer ce rôle de fonctionner en demandant une adhésion, parce qu'il faut bien financer tous ces secours qu'on accorde aux ouvriers, de fonctionner un peu comme une vraie caisse de secours mutuel, et donc de jouer le rôle peu ou prou, et ça sera vrai surtout dans les années 33-34, de véritables caisses de grève, où les ouvriers là vont pouvoir, quand je dis les ouvriers, je parle bien au 19e siècle, vont pouvoir se battre pour la volonté de faire perdurer cette valeur travail et imposer un certain nombre de choses parce qu'ils savent que quelque part, ils ont participé à une caisse de secours mutuel et que cette caisse de secours mutuel en retour va les aider alors qu'ils touchent près. Et que se pose pas à ce moment-là la question du trou de la sécurité sociale, ça n'existe pas. Et les caisses de secours mutuel, organisées par les ouvriers eux-mêmes, d'emblée, sont déjà là et posent quelques-uns des prémices de questionnement qu'on va retrouver ensuite dans l'immédiate seconde après-guerre. Donc les caisses de secours mutuel. Tout ça se passe comme si, indépendamment de la politique, on verra que ce n'est pas tout à fait indépendant, mais une fois les corporations ouvrières abolies, avec les règles des jurandes qui fonctionnaient au XVIIIe siècle et qui sont abolies au moment de la Révolution, elles sont abolies par une loi, mais une espèce de queue de comète continue à exister, à se revivifier selon les époques. Tout se passe comme si, indépendamment de la politique, et que ce soit l'Empire, ou que ce soit la République, ou que ce soit la monarchie, les ouvriers éprouvent à chaque fois le besoin, et ensuite en affirme la volonté de s'organiser eux et de prendre en compte leur propre devenir parce qu'ils ont conscience, je l'ai dit à plusieurs reprises, de cette valeur du savoir-faire qu'ils ont entre les mains et qu'il va un jour falloir le défendre le jour où la machine saura faire la même chose qu'eux. Il va bien falloir se trouver un moyen pour pouvoir continuer à exister. Et indépendamment d'une prise de conscience politique, parce que dans les années 30, les revendications tournent autour du prix du travail, bien sûr, tourne autour d'un certain nombre de gens qui sont jugés indésirables et qu'on va appeler les marchandeurs. Ils savent où il y a du travail, ils savent où il y a des ouvriers, ils mettent en rapport et entre les deux, ils prennent un pourcentage.
les agences d'intérim savent faire ça aujourd'hui, mais personne ne pense plus à aller les détruire. Les ouvriers pensent à ça à ce moment-là, parce que c'est des gens qui sont des exploiteurs, parce qu'ils font partie des gens qui gagnent de l'argent en ne faisant rien. Et la valeur qui est intrinsèquement contenue dans le travail, la haute conscience que l'ensemble des ouvriers, et je parle encore, quand je parle de ça, je parle du 19e siècle, donc les artisans, les ouvriers de métier du 19e siècle, ont conscience de ça, de cette valeur du travail, et se mettent à avoir une véritable haine de tous ceux qui gagnent en ne rien faisant. Qu'ils soient prêtres, qu'ils soient marchandeurs, qu'ils soient bourgeois capitalistes, les ouvriers se mettent à se coaliser et à se défendre de ces gens qui, d'une certaine manière, eux qui sont les héritiers des sans-culottes, leur rappellent l'aristocratie contre laquelle ils se sont levés, ou leurs pères se sont levés, et qui sont là à gagner de l'argent alors qu'eux ont mal à vivre. Et cette volonté, indépendamment d'une politique, c'est une espèce de conscience sociale qui se fait jour à partir de la conscience du travail. Tout d'un coup se fait jour une conscience sociale qui, un peu plus tard dans le siècle, deviendra une conscience politique, mais un petit peu plus tard dans le siècle, se fait jour une espèce de volonté de s'organiser pour vivre, parce qu'ils se sentent menacés, à juste titre, et pas seulement par la machine, parce que eux qui jusqu'alors ont eu conscience de se transmettre de la formation, ont une conscience et volonté de continuer à transmettre un certain nombre de valeurs, entre autres celles de l'instruction, les ouvriers n'ont jamais attendu l'école pour apprendre à lire, c'est pas les lois Ferry qui les apprendront à lire, ils savent déjà, parce qu'il y a cette volonté d'entraide qui fonctionne à l'intérieur des sociétés de secours mutuels, cette volonté de se transmettre tout ce savoir, cette volonté d'organiser et de continuer à faire vivre la solidarité, la fraternité, qui n'est pas encore au fronton des mairies. La révolution, c'est liberté, égalité. La fraternité, il faudra attendre 48 pour ça. Et c'est les ouvriers qui en sont porteurs. Cette volonté-là les incite et les conduit à s'organiser, d'abord pour se prémunir dans ce qui les touche tout de suite. Ça veut dire l'accident, ça veut dire la maladie, ça veut dire le décès, ça veut dire aider les veuves qui restent, ça veut dire aider en cas de chômage, qu'il soit technique, qu'il soit plus revendicatif. Et ça va peu à peu les conduire à avoir une conscience sociale qui va les mettre en position de s'affronter, pas tout de suite violemment, mais ils le feront un peu plus tard, de s'affronter à ceux qui gagnent sans rien faire. Et puis toute cette conscience-là, qui est véhiculée par les sociétés de secours mutuels, qui est véhiculée par le compagnonnage, et qui est une conscience dans un premier temps du métier, dans un deuxième temps sociale, va finir par rencontrer la République. Dans les années 40, les idées républicaines se revivifient, c'est plus la République, les idées républicaines se revivifient, et tout d'un coup, il va y avoir une confluence de ces deux idées. Une qui est celle de la République, pour laquelle un certain nombre d'intellectuels écrivent, un certain nombre de politiques combattent la monarchie pour restaurer la République. Tout d'un coup, il va y avoir une naissance de quelque chose qu'aujourd'hui on va appeler le socialisme des métiers, bien avant la CGT, bien avant le marxisme, et cette espèce de véhicule presque évident pour eux de cette fraternité de métiers qu'il convient de se transmettre les uns les autres, de s'entraider entre corporations et au-delà même du métier, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas serrurier que les serruriers ne vont pas avoir un geste, ne vont pas avoir une solidarité. Tout d'un coup, il va y avoir une rencontre entre la République et ce socialisme des métiers, qui est un socialisme du travail, de la justice et du travail. Et tout ça va avoir une déflagration qui sera la République de 48, ceux qu'on a appelés, et qui se sont appelés eux-mêmes les 48ards, et qui vont renverser la monarchie et instaurer la République. Et là, quand les comptes se font, le comptage est encore plus flagrant qu'au moment, parce qu'un peu plus précis qu'au moment de la prise de la Bastille, tous ces insurgés des journées de février sont tous artisans. Et ils sont sur le devant de la barricade, ils montent au créneau pour la République, mais pour la République de la justice et du travail. Ils portent en eux ce socialisme des métiers qu'ils ont récupéré de leur grand-père des corporations ouvrières du XVIIIe siècle, qu'ils ont incorporé et transformé aux aléas de l'évolution technique.
qui se sont adaptés à la révolution industrielle. Ils ont su, contrairement à ce qu'on a pu dire, ils n'ont pas été rebelles à la machine. Ils ont su l'utiliser quand elle leur était utile, quand elle leur apportait une manière de transformer les conditions de vie. Mais ils l'ont combattue quand ils estimaient qu'elle était néfaste à leur organisation. Ils ont brisé les machines. C'est un mouvement qu'on a appelé le ludisme, 2D, c'est pas de jouer, c'est un mouvement de bride machine qui est en général très concerté. C'est, on casse jamais n'importe quoi, et c'est jamais n'importe qui casse n'importe quoi, c'est pas du saccage. On casse une machine qui vient détruire une organisation sociale à l'intérieur d'une entreprise. Et bien ces ouvriers qui ont cette conscience-là, et qui s'organisent déjà dans leur tête, et qui ont déjà compris, parce que dans les années 1830, j'ai omis de dire ça et c'est pourtant fondamental, dans les années 1830, impulsé par cet héritage de compagnonnage, par cet héritage de transmission de savoir-faire, par cet héritage de solidarité ouvrière, les ouvriers vont commencer à parler. Quand je dis qu'ils vont commencer à parler, c'est l'historien d'un siècle et demi après qui dit ça. Ça veut dire qu'ils vont commencer à écrire. Ça veut dire qu'ils vont commencer à se prendre en charge eux-mêmes et parler eux d'eux et ne plus attendre, ou peut-être par réponse à ces grandes enquêtes sociales et philanthropiques du 19e siècle, les ouvriers vont éprouver le besoin et se donner les moyens, parce que le savoir et l'instruction, ils se la sont transmises, d'écrire eux. Donc des journaux vont voir le jour, ils vont écrire des livres, et ils vont se mettre à se transmettre et à réfléchir à ce que c'est que le travail. Et ce, dès les années 1830. C'est dans ces années 1830 que les ouvriers passent du silence à la parole et qui se mettent à écrire et à parler d'eux. Pas encore dans une volonté de retournement politique aux révolutionnaires. Simplement, ils veulent être reconnus pour ce qu'ils sont. Ils ne veulent pas prendre la place. Ils ne revendiquent pas le pouvoir. Ils ne revendiquent pas ce qu'on appellera un siècle plus tard la dictature du prolétariat. Ce n'est pas ça leur propos. Leur propos, c'est d'être reconnus pour ce qu'ils sont et de ne plus être méprisés pour le travail qu'ils réalisent. Ils sont en cela les héritiers des sans-culottes, les héritiers du tiers-État. L'État qui disait, on demandait qu'est-ce que c'est le tiers-État, c'est rien, et qu'est-ce que vous voulez être, tout. La question se pose dans ces termes-là. On a un savoir-faire, on est ouvrier, et on veut être reconnu pour ce qu'on est. Pas plus, mais pas moins. Et c'est toute cette effervescence de réflexion sur ce que c'est que le travail et la manière dont on le véhicule, et la manière dont on veut bien se l'approprier et dont on veut bien le transmettre, qui va rencontrer l'idéologie républicaine, qui va donner la République de la justice et du travail, qui va éclater et qui va être en partie relayée. Il va y avoir une espèce de montée en puissance par la publication en 1839 d'un livre qui s'appelle L'organisation du travail, par un auteur qui s'appelle Louis Blanc, et qui va un peu catalyser cette rencontre entre d'un côté le socialisme des métiers et de l'autre côté l'idéologie républicaine. Et en 48, la première revendication, en tout cas les ouvriers réclament la création d'un ministère du travail. Il y a une commission qui va se créer, une commission qui va réfléchir aux conditions de travail et qui sera conduite par Louis Blanc et par l'ouvrier Albert et qui réfléchira au travail, mais bon, à l'organisation du travail. Et d'emblée, la révolution de 48, en tout cas celle de février, inscrit dans la Constitution le droit au travail. Rendez compte de ce que ça veut dire. La Constitution de 1848 porte un article comme quoi le travail est un droit. Dans une société où on véhicule quelques 4 à 5 millions de chômeurs, on mesure le chemin parcouru. En 48, le travail est un droit reconnu comme un droit à la citoyenneté. Ça veut dire que la Constitution s'impose de fournir du travail, l'État, la nation, s'impose de fournir du travail à tout le monde. Le droit au travail est inscrit dans la Constitution en 48, comme un des éléments fondamentaux de la citoyenneté. On crée pour ça des ateliers nationaux, pour embaucher et pour créer du travail. Alors, cette rencontre entre l'idéologie qui est un héritage de l'idéologie corporative, et encore une fois, corporatisme n'est pas pris dans le sens jadis du terme, mais bien de cette volonté de s'approprier l'ensemble des dimensions du métier, et cette rencontre avec l'idéologie de la République va donner 48. Les 48 heures et les journées de février où le peuple va réclamer
la création d'un ministère du Travail et va réclamer une prise en compte et une prise en considération de tout ce que peut être le travail comme valeur fondamentale de la République. Et les ouvriers, les artisans, les gens de métier, comme on les appelle, ont cette conscience que on ne pourra pas obtenir quoi que ce soit si le travail n'est pas au centre de la réflexion. Et c'est la raison pour laquelle les ouvriers réclament un ministère du Travail, eux qui ont une conscience de, par les textes qu'ils ont produits ou que leurs pères ont produits dans les années 30, mais aussi transmises par l'expérience et par la volonté qu'ils ont de lutter contre cette diffusion ou cette infusion de la révolution industrielle à l'intérieur de la société française, que si le travail n'est pas au cœur de la société, alors rien ne se fera qui pourra ressembler à la justice et au travail. Les élections s'organisent et elles sont perdues. Et elles sont perdues pour une raison que je vous ai évoquée en premier lieu, c'est que la France est rurale et que la campagne votera contre. Et du coup, s'instillera à l'intérieur du monde du travail une espèce de défiance de cette idéologie républicaine. Ça veut dire que les ouvriers ont conscience d'avoir été trahis par la campagne, d'avoir été trahis par la ruralité, et du coup les modérés prennent le pouvoir, et les républicains modérés prennent le pouvoir, et feront fi du coup, puisque les plus violents d'entre eux, les violents en parole et en volonté en tout cas, ont été dessaisis du pouvoir, vont faire fi de cette centralité du travail et de cette valeur travail à l'intérieur des valeurs de la République. Là-dessus, le coup d'État du 2 décembre va laminer les choses, il y aura une répression extrêmement violente, et les interdictions du début de l'Empire vont se reproduire comme elles ont été fabriquées au moment de 91, c'est-à-dire plus d'associations ouvrières, plus de coalitions ouvrières, plus de droits d'association. Et la répression sera assez sanglante, je ne comptabilise pas les morts, je peux vous les donner si ça vous intéresse, mais les chiffres sont assez impressionnants, le mouvement est laminé, et ne renaîtra de ses cendres, si on peut dire, que dans les premières années de l'Empire, une espèce de phénomène de décalage par rapport à ce qui s'était passé dans les années 30 se reproduit, c'est-à-dire que, activé par le secret, on aboutit quand même à la création de toute une série d'associations et de sociétés de secours mutuels qui continuent à perdurer et qui renaîtront et qui seront prêtes au moment de la Commune, et qui à nouveau, au moment de la Commune, et ce sera la dernière révolution du XIXe siècle, les communards, encore une fois, seront des gens de métier. Et la répression versaillaise fera détourner, sans doute de manière irrémédiable, en tout cas c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui en cette fin du XXe siècle, le monde de la petite entreprise de cette volonté républicaine de la justice et du travail, parce que d'avoir été trahi deux fois par la politique va faire basculer le monde de la petite entreprise de la gauche, où elle était ancrée depuis le début du siècle, vers les partis de l'ordre.